Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse, en direct aujourd'hui du Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, en direct et en public, avec une question ce matin: comment naissent les chefs-d'œuvre? Dans quel antre sont-ils conçus? Quelle alchimie les amène au monde? Quel dosage de courage, de folie, de sacrifice faut-il? Savez-vous que Proust s'est vu refuser son manuscrit plusieurs fois? Monsieur, 30 pages pour décrire un homme qui se tourne et se retourne dans son lit, vous trouvez pas que c'est un peu trop? Lui aurait dit un éditeur. Savez-vous que Céline, qui était médecin, écrivait entre deux patients vite fait sur un coin de table? On s'intéresse ce matin aux petits et aux grands secrets de la fabrication de la littérature avec la fine fleur, avec, que dis-je, les chefs-d'œuvre de Grand Bien vous fasse. Bonjour Maya Mazorette.
Salut Thomas.
De quoi vous nous causerez aujourd'hui?
Comment naissent les chefs-d'œuvre de la littérature érotique? Souvent, ils ne naissent pas du tout. Souvent, c'est catastrophique, donc ça va dénoncer.
Bon, bah on se donne quand même rendez-vous tout à l'heure, un peu avant 11h. Bonjour Éric Libio.
Bonjour Thomas.
Plutôt devrais-je dire Rick Libio, car le E aujourd'hui vous interpelle, Rick.
Ben ouais.
Ok, vous restez mystérieux, super. J'aime bien le mystère, merci. On en saura plus dans quelques instants, j'espère. Et bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Thomas.
Le philosophe de la bande. Quel sera votre sujet de réflexion aujourd'hui?
Eh bien, puisqu'on parle chefs-d'œuvre, on dit souvent que les chefs-d'œuvre sont faits par des génies. Alors, à quoi tient le génie?
Eh bien, ça promet, vous avez le programme. Merci d'être avec nous. Grand Bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau. Grand Bien vous fasse.
Christina Pelledouel, spécialiste des pages livres dans Psychologie Magazine, est venue avec deux livres, parce qu'un seul, ça ne suffit jamais. Avec
oui, oh, bah c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Je vais vous dénoncer. Si on n'a pas le temps, il faudra faire
voilà,
qu'un seul.
Vous m'avez dit un seul, je dénonce.
On verra lequel dans quelques instants. Bonjour Sébastien Le Foll.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du Point et vous venez de publier La Fabrique du chef-d'œuvre. Alors vous racontez la naissance, la genèse de 23 chefs-d'œuvre. Enfin je dis vous, ce sont les auteurs avec lesquels vous avez travaillé qui racontent la genèse des chefs-d'œuvre. Il y a par exemple les Essais de Montaigne racontés par Antoine Compagnon que les auditeurs de France Inter connaissent bien, Le Candide de Voltaire par le philosophe Pierre-Henri Tavoyot ou Les Mémoires d'Adrien par la journaliste Josiane Savagnou. Mais avant, il y a une préface. Une longue préface dans laquelle vous vous racontez, dans laquelle vous dites de très jolies choses sur le rapport que vous entretenez avec les livres. Et j'aimerais bien qu'on commence par là, si vous le voulez bien, que vous racontiez comment des écrivains que vous ne connaissiez pas quand vous avez ouvert leurs livres, Gary, Monterland ou Nimier, comment ils sont devenus vos grands frères, comme vous dites.
Il y avait pas de livres chez mes parents. J'ai découvert les livres assez tard finalement par bribes. Il y avait une grande encyclopédie, vous savez qu'il y avait dans toutes les familles chez ma grand-mère maternelle à la campagne. Et de temps en temps mon père qui était représentant.
C'était quelle campagne?
C'était dans le Bourbonnais près de Vichy, c'était ma famille maternelle, côté paternel c'était breton, là il y a pas du tout
le pays de René Fallet, un grand écrivain populaire.
Exactement. Et mon père, qui était représentant de commerce, qui vendait, vous savez, la colle jaune, la UHU, de temps en temps, quand il revenait de métro, là, ce grand grossiste, me rapportait un livre. Mais il y en avait très peu. Puis un jour, on avait à la maison, on recevait deux magazines. Il y avait l'Auto-Journal, je me souviens, et Télé 7 jours, avec le programme télé. Et puis, en dernière page, il y avait un jour à découper des coupons pour recevoir des livres et des disques. Donc avec ma mère, on avait découpé. C'est qu'on a commencé à recevoir des livres. C'est finalement les premiers livres que j'ai eus à la maison. Alors je m'en souviens très bien, puisque certains sont encore chez mes parents. Il y avait La valise en carton de Linda de Souza.
Que vous avez lu
sans ma fille, oui, de Betty Mahmoudi. Donc ma découverte, je dirais, des livres, voilà, c'était les livres qui ont peuplé mon adolescence. Et ensuite, il y a eu, j'ai eu cette chance, comme beaucoup de gens, de tomber sur un professeur qui avait vu que j'étais curieux, que j'avais envie, et qui a commencé à me prêter des livres. J'allais lui rendre visite, et le samedi, de temps en temps. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la littérature, mais au lycée. Donc j'ai mon rapport à la littérature est l'histoire d'un manque, d'un boulimique qui veut compenser à l'âge adulte ce qu'il a manqué. Et encore aujourd'hui, j'ai dès que j'entends dans une émission... J'entends quelqu'un dans une conversation parler d'un livre, je note et je crois que je le commande aussitôt. Je suis en session de rattrapage permanente avec un peu de syndrome de l'imposteur par rapport à la littérature.
Mais vous dites en même temps, donc il y a cette boulimie, mais il y a aussi quelque chose de sacré, un rapport sacré que vous entretenez avec le livre. Vous avez écrit cette phrase « Je n'ai pas reçu le baptême, mais j'éprouve la foi du converti ».
Oui, parce que En France, la littérature a longtemps, encore un peu aujourd'hui, revêtu une dimension particulière. Au XIXe siècle, l'écrivain a pris ce statut un peu au-dessus du commun des mortels, une dimension presque religieuse. Et c'est vrai que la littérature est notre manière à nous, Français, de voir le monde, d'exprimer nos sentiments, de théoriser notre vie politique. Nous, on a eu des grands chefs d'État qui ont été aussi des grands écrivains. Donc tout passe par la littérature, tout nous ramène à la littérature. Notre conception de l'amitié, très souvent encore, reste très imprégnée des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, dont on raconte l'histoire dans ce livre. Mais La Fontaine aussi a totalement fécondé notre manière de voir les rapports humains, les sentiments humains. Donc c'est ce rapport-là, cette dépendance à la littérature que je décris aussi dans ce livre.
Ce livre, c'est donc La Fabrique du chef-d'œuvre, c'est aux éditions Perrin, et petit à petit, la salle au Festival du Livre de Paris dans laquelle nous sommes se remplit. Si jamais vous avez, spectateurs, envie de nous faire part de vos chefs-d'œuvre, n'hésitez pas, il y a un micro qui va tourner, et puis également, vous aussi, chers auditeurs, sur franceinter.fr, sur l'appli de France Inter, évidemment, donnez-nous la liste de vos chefs-d'œuvre, et également sur la page Facebook de l'émission. Il paraît qu'elle a un nom de code. Lady Crumble, Christina Pelledwell, vous êtes venue avec un livre dont vous vouliez nous parler, un livre qui, évidemment, nous fait du bien.
Voilà, et évidemment, un seul, j'ai remarqué, bon, on verra pour tout à l'heure, pour le second, alors.
S'il y a le temps.
S'il y a le temps. Enfin, j'essaye de faire pression, mais en tout cas, je vais vous parler. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre, voyez-vous, et puis le thème du salon, c'est « Habiter le monde ». Et donc là, j'ai un livre qui correspond absolument aux deux. C'est un livre d'Edouard Cortès que j'avais complètement... Je ne l'avais pas vu quand il est sorti, quand il a été publié la première fois aux Équateurs, il y a, je crois, un an. Et là, il ressort chez Pocket, en poche. Et c'est un livre vraiment merveilleux. Alors, ça s'intitule « Par la force des arbres ». Il a reçu la toison d'or du livre d'aventure. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, mais je le saurai plus tard. Et c'est un livre merveilleux. Alors, Edouard Cortès, c'est un voyageur, un écrivain. Je ne sais pas si c'est un écrivain voyageur ou un voyageur écrivain. Je n'en sais rien. En tout cas, il a fait plein de choses dans sa vie et il a en particulier fait de l'élevage. Il avait un troupeau. Et il se trouve qu'il a été, comme beaucoup d'éleveurs et d'agriculteurs, victime d'un certain nombre de choses, de problèmes administratifs, de problèmes financiers. Bref, il a été obligé de vendre son troupeau, ce qui a été un drame. À la suite de ce drame, il a sombré dans une dépression assez grave. Et un de ses recours était de se promener dans les forêts alentours pour essayer de reprendre pied. Et en se promenant, il lui est apparu que la solution dans son cas, pour remonter la pente, littéralement, c'était de s'installer dans un arbre. Et il a décidé, comme ça, avec l'aide de ses enfants, de sa famille, il a décidé de construire une cabane dans son arbre et d'y passer, il y a passé 3 mois, il y a passé une saison entière, un printemps complet. Et il raconte. Et cette suspension du temps, de l'espace, de la terre aussi, et la solitude, le fait d'observer ce qui se passait autour de lui, de n'être en contact, évidemment, inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de liaison, qu'il était tout seul, pas d'électricité, vraiment...
C'est pour ça qu'on va se cacher dans les arbres en général.
En général. Et il avait pour toute compagnie, donc il a quitté sa famille provisoirement, et il avait pour toute compagnie, eh bien, les feuilles, le vent, les animaux qui passaient en dessous, et bien sûr, les oiseaux. Et quelques livres. Ce n'est pas rien. Et au fur et à mesure que le temps a passé, il a repris véritablement contact, non seulement avec le monde, habiter le monde, mais aussi avec lui-même. Et ça a été une véritable renaissance. Et il est descendu de son arbre de manière définitive, réellement au bout de 3 mois. C'est une espèce. Il a passé 3 mois. C'est une espèce de stylite moderne. Qui a choisi comme ça de vraiment de s'abstraire, de se hisser dans l'air.
Un ermite des cimes.
C'est ça, un ermite des cimes. Et ce livre, il est tout court. Hein. Il a, je sais pas, à peine 150 pages. C'est une écriture magnifique, très poétique. Et c'est surtout ce voyage, c'est évidemment les contraires. Il s'élève dans l'arbre pour mieux plonger en lui-même. Et il en est ressorti complètement ressourcé. Il a pu repartir dans sa vie. C'est un livre merveilleux. Voilà. Et je ne l'avais pas vu. Première édition aux Équateurs, je ne l'avais pas vu. Alors, mea culpa.
Ça va nous changer un petit peu de la fameuse question qu'on pose. Qu'est-ce que tu emmènerais comme livre si tu avais à vivre sur une île déserte, là? Qu'est-ce que tu peux emmener comme livre si jamais tu dois passer ta vie dans un arbre?
Eh bien, celui-là, tiens.
Alors, allez-y, rappelez son titre.
Par la force des arbres, Édouard Cortès, qui a écrit d'autres livres hein, tout aussi formidables. Et c'est un marcheur, mais là, il a choisi de ne plus marcher, mais de voler.
Il a grimpé.
Il a grimpé.
Sébastien Le Foll, donc vous nous avez raconté ce rapport quasi sacré que vous entretenez avec les livres et donc avec leurs auteurs. Il se trouve qu'ensuite vous êtes devenu journaliste après avoir lu La valise en carton de Linda de Silva.
Et journaliste littéraire en plus.
Et journaliste littéraire.
J'ai attaqué par la face nord.
Et donc vous avez rencontré ces auteurs qui vous faisaient fantasmer quand vous étiez jeune, quoi. Et j'imagine que la première rencontre quand on a lu quelqu'un, quand vous lui serrez la main, que vous lui dites bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La première rencontre du premier auteur que vous avez pu interviewer.
Mais d'ailleurs,
vous étiez, voilà.
Je voulais pas, d'ailleurs, j'ai tout fait pour éviter de devenir journaliste littéraire, qui était la discipline qui m'intimidait donc le plus. Mais on m'avait dit, faites du journalisme sportif ou du journalisme politique. Et finalement, j'ai trouvé un stage au Figaro littéraire. Et effectivement, je me promène mes premières visites à des écrivains. Il y avait un rituel à l'époque, c'était au Figaro. Le grand écrivain de la maison, c'était Jean d'Ormesson. Je me revois encore. Aller tout petit dans son hôtel particulier à Neuilly où il a tenu absolument à me faire manger des biscottes que quand j'ai voulu beurrer, le beurre était dur comme tout. Donc j'ai brisé la biscotte en plein de morceaux qui sont répandus sur lui et dans le salon. J'étais
vous avez embiscoté Jean d'Ormesson.
Et puis après, il y a eu cette visite à les grandes visites pour moi. C'était Michel Tournier qui était le monument. On l'étudiait à l'école dans son presbytère, là, dans la vallée de Chevreuse. Et oui, il m'avait reçu, il avait tenu absolument à me faire la dalle. C'est toujours décevant de rencontrer les écrivains qu'on admire. Enfin, c'est parce que quand il m'a reçu, il avait tenu à m'inviter à déjeuner. Et il m'a dit, je vous ai préparé un repas un peu frugal. Et puis, il avait fait cuire dans de l'eau des saucisses Herta, dans de l'eau croupie d'ailleurs, qu'il avait réchauffé. Donc ça a démythifié complètement le l'écrivain.
Donc on l'imagine plutôt dans une île du Pacifique avec Vendredi ou dans sa vallée de Chevreuse, en effet, avec les petits oiseaux, les arbres, enfin quelque chose de bucolique.
Mais en tout cas,
vous avez eu les knackis dans de l'eau croupie.
Oui, et de cette expérience est né finalement ce livre, La fabrique du chef-d'œuvre. Car qu'est-ce que c'est que La fabrique du chef-d'œuvre? C'est l'envie. Moi, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais un peu plus jeune, où les meilleurs spécialistes, les grands passionnés de la littérature me racontent ces chefs-d'œuvre, me fassent la courte échelle pour escalader ces Himalayas de la littérature, me fassent entrer, mais d'une manière vivante, parce que chaque histoire là dans ce livre est un roman. L'histoire des chefs-d'œuvre est un roman. Comme disait un grand éditeur qui n'est plus de ce monde, qui était Bernard de Fallois, mais c'est le voilà, et c'est ce que j'ai appris moi dans mon métier de journaliste littéraire, c'est raconter l'atelier, la coulisse, les coulisses de la création, voir ce qu'il y a derrière, les efforts, l'être humain qu'il y a derrière l'artiste.
Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu s'intéresser finalement au brouillon?
Parce que totalement.
Tant que lecteur, c'est pas ce qu'il.
Ça a longtemps été péjoratif. Ce terme de fabrique, il est employé pour dénigrer Alexandre Dumas. Il y a un pamphlet contre lui, La fabrique Dumas. Et c'est un livre sur l'artisanat, La fabrique du chef-d'œuvre. C'est les visites des ateliers, de l'arrière-cour, et c'est passionnant. C'est de montrer que derrière tous ces grands monuments, ces cathédrales, ces pyramides, parce que d'ailleurs c'est marrant, les critiques ont souvent comparé ces classiques à des grands monuments. Eh bien derrière, oui, il y a des artisans, des ouvriers, presque des forçats. Hugo, quand il écrit Les Misérables, faut voir. Jean-François Kahn nous raconte ça. C'est un atelier, c'est un ouvrier dans son atelier.
Et puis il y en a un autre avec qui vous avez regardé ce film.
Coucou. Non, non, écoutez, j'ai pas envie de jouer, je vous assure.
Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce beau présent vous rende riche et content.
Ah, elle y a pensé.
Elle y a pensé.
Oh, Cynthia, ma biche. Au fond, tu es un petit être exquis. Et si parfois, il m'arrive d'être nerveux.
Mais non, Léo, mais non.
Mais si. La vie, vois-tu, il faut se battre. Tu comprends, ma biche?
Je comprends, Léo. Et maintenant, fermez les yeux.
avez vraiment regardé Pouic Pouic avec Houellebecq?
Oui, un été, on m'a envoyé organiser une rencontre. C'était pas simple, hein. Éric Libio, qui est là, lui, a organisé ce genre de choses. C'est les entretiens croisés entre deux personnalités. Alors on vous dit, voilà, il faudrait réunir un tel et un tel. Bon, et là, c'était de réunir Michel Houellebecq, qui vivait en Irlande à l'époque, et un autre écrivain français vivant en Irlande, Michel Déon, qui avait écrit les Poneys Sauvages, notamment. Et donc, on s'est retrouvé chez Houellebecq, qui avait... je crois qu'il avait loué un ancien bed and breakfast sur une petite île au sud-ouest de l'Irlande. Et on a passé là 4 jours chez lui. Moi, je dormais dans une chambre où il y avait une collection complète de guides du routard, parce qu'il écrivait à l'époque ce roman qui allait dans lequel il racontait ce que c'était la Thaïlande, le monde, la mondialisation d'aujourd'hui. Donc je dormais dans cette chambre, il dormait au dernier étage. Je me souviens, il passait des heures et des heures il avait recevé par satellite toutes les chaînes. Il oscillait entre les Bloomberg, la chaîne boursière, et les chaînes télévangélistes. Et puis on se retrouvait pour des marches, des repas bien alcoolisés, et le soir, après avoir travaillé, le premier soir, il nous a dit ben, on va faire séance cinéma. Et effectivement, 3 soirs de suite, nous avions droit à des grandes projections. On enchaînait 2-3 films d'affilée. Alors Michel Déon allait se coucher un peu avant la fin, et on enchaînait effectivement Pouic Pouic, enfin tous les Louis de Funès dont il était passionné. D'ailleurs, j'attends encore le grand livre de Michel Houellebecq sur
Louis
de Funès.
Sur Louis de Funès, ah bah on l'attend tous. Ça, ce serait quand même quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, ça nous amène en effet vers vous, Éric Libio, car contrairement à Pouic Pouic, dans le film, hein, toute la fortune de la famille a été investie dans une seule concession pétrolière, qui en plus est fausse. Vous, au contraire, Éric, vous avez parfaitement saisi qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier.
Et oui, Thomas Gorgsbrück avait raison, le E est une lettre importante. D'ailleurs, en ajoutant un E à Gorgsbrück, ça donne Georges Perec et ça va déjà beaucoup mieux. Je fais évidemment ici allusion au roman de Georges Perec, hein, La Disparition, écrit sans E. Sans E de Pâques, pourriez-vous rajouter, pour être dans le ton du moment à quelques jours près? Oui, le E est important, et pour rester dans le ton à quelques jours près, mais dans les jours à venir, cela... Il n'est qu'un E de différence entre élire et lire. Je vous livre ça un peu brutalement, c'est vrai, pardon, mais c'est important. Il faut lire, et le livre élu, restera à jamais dans les mémoires. Lire, c'est excitant, lire, c'est réjouissant, passionnant, dérangeant. C'est emballant, et tous ces mots ne font jamais mal. D'ailleurs, l'ivresse des mots devrait être enseignée à l'école de la République. Lire, c'est apprendre la langue, mais c'est aussi faire des maths, et je pose la question en forme de problème d'arithmétique. Si 2 livres de livres pèsent 1 kilo, combien pèsent 3 livres? Vous avez 3 minutes jusqu'à la fin de cette chronique. Alors, j'entends ici ou là que lire ne vaudrait pas la peine, mais tout vaut mieux que la peine. La peine, c'est triste, et mariner dans sa peine n'est jamais bon. Je ne vais pas vous faire l'article, hein, la peine est féminin. Cela dit, entre elle et lui, si les deux font le père, il n'y a qu'un nœud de différence. Mais il faut aussi se méfier des nœuds. Un nœud coulant, ça fait très mal. Il n'y a rien de cool dans le coulant. Donc oui, lire vaut mieux que tout, lire c'est plus grand que tout, même à un micron près. On peut lire des chefs-d'œuvre et des mauvais livres, on peut lire des journaux, des prospectus, des éditos, des dictionnaires, des essais, des récits, des romans. On peut lire au lit ou assis, on peut lire en courant et lire en marchant. Et parfois, il vaut mieux lire en marchant que rien n'est lire. Écrire, c'est autre chose, il faut s'y employer avec modestie et constance. Le labeur n'est jamais doux, surtout pour un Breton. De toute manière, on ne devient pas Romain Gary par hasard. Mais lire, c'est aussi... Mais lire, c'est aussi écrire son propre imaginaire, parfois dessiner le chemin à prendre. Les personnages n'ont pas d'âge, les héros ne comptent pas pour zéro, les héroïnes sont addictives, les romans mentent, et pourtant, s'approche de la vérité humaine, la friction secoue les idées. Oui, il faut lire et lire, saluer les libraires qui en connaissent un rayon au point de souvent vous conseiller, applaudir les bibliothèques pour lesquelles je n'ai pas encore trouvé un jeu de mollet pour ne pas perdre pied. Oui, il faut élire et lire, et ça tombe bien. France Télévisions et BBC Studios proposent aux Français de voter pour leur livre préféré. Là aussi, il faut voter, hein. Élisez, l'Élysée, mais élisez aussi votre livre favori. N'importe lequel, polar, BD, classique, roman, manga, essai. Il faut juste qu'il soit édité en France. Le vote se tient jusqu'au 16 mai. Il y aura un second tour. Un autre vote parmi les 50 premiers livres élus. Enfin, une soirée de dépouillement à l'automne pour savoir quel est le livre préféré des Français et des Françaises. Alors, j'ai oublié de préciser qu'au premier tour du vote, vous avez le droit a nommé 3 livres préférés. À ce propos, j'attends toujours la réponse à la question hein, de Matt de tout à l'heure, dont je rappelle le libellé. Si 2 livres pèsent 1 kilo, combien pèsent 3 livres ? Écrire à France Inter qui transmettra.
Et vous offrira le livre d'Éric Libio si jamais vous avez la réponse. Merci Éric. Grand bien vous fasse en direct du Festival du Livre de Paris aujourd'hui. On attend toujours sur l'appli de France Inter ou bien sur la page Facebook de l'émission votre liste de chefs-d'œuvre.
C'est ok, tu es hit. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. Gemini, carbure pas au mazout. C'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Tu aimes la nitroglycérine. C'est opus, palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Barbarelle, la garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes ou sinon je te renvoie à ta science.
Qui est in, qui est out, Serge Gainsbourg. Et puis, puisque nous parlons livre ce matin, je vous conseille la lecture du court roman que Gainsbourg a écrit, Eugénie Sokolov, l'histoire d'un artiste qui peint en pétant ou qui pète en peignant.
Vous avez lu mes chefs-d'œuvre ?
Tout !
Grand bien vous faire.
Donnez-moi un titre au hasard et je vous écris en libre en 2 jours. Ah, Christine, ce n'est plus un bouquin par mois, mais 3 par semaine.
Je préfère ici d'abord celui-là.
Thomas Chauvineau.
Vous avez raison.
Sur France Inter.
Où en étions-nous ?
Extrait du magnifique avec Belmondo. Eugénie Sokolov qui figure pas dans la liste des 23 chefs-d'œuvre que vous publiez dans la Fabrique des chefs-d'œuvre. Sébastien Le Foll, je comprends pas pourquoi.
Ah oui, mais il y a plein d'impasses. Soit il aurait fallu faire un livre de 1000 pages, ils ont fait 400 et quelques, mais on a plein de remords.
Il y a les fables de La Fontaine, Le Rouge et le Noir.
Plein de frustrations.
Les 3 mousquetaires. Parce que finalement, c'est ça le plus dur, c'est faire une liste. Trouver 23 chefs-d'œuvre, on peut. Trouver 150 chefs-d'œuvre, c'est encore plus facile. Comment les réduire à 23?
Bah, il a fallu un juge de paix, ça a été mon éditeur, Benoît Hivert, qui est le patron des éditions Perrin. Moi, je voulais, par exemple, j'aurais voulu que figure dans ce livre Simenon, qui est pour moi un génie, enfin au moins du niveau de Proust. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, quel est le chef-d'œuvre de Simenon ? Alors après, se poser la question de la poésie, par exemple. Il n'y a pas de poésie dans la fabrique du chef-d'œuvre.
Il y a La Fontaine, quand même.
Pré-sélection. Oui, il y a La Fontaine, quand mais qui nous enregistre. On s'est dit, Flo, on avait Baudelaire, et puis on s'est dit...
Alors c'est quoi, ce sont des réunions, on discute, et puis finalement on raye les noms au fur et à mesure.
Ce sont des déjeuners, avec des noms additionnés sur une nappe. On avait, je crois, au départ 60 noms, 60 œuvres, il a fallu réduire, parce que chaque texte se lit quand même comme une grande nouvelle à chaque fois. Donc il fallait... que les chapitres soient équilibrés. On était donc contraints par la place. Après, on a très envie d'en faire un deuxième volume qui sera plutôt sur la littérature étrangère, je pense.
Il y a de quoi faire aussi, en effet. Mais alors, vous pouvez imaginer qu'en voyant cette liste restreinte de 23 chefs-d'œuvre, l'équipe de Grand Bien vous fasse a poussé des cris d'orfraie, pour ne pas dire d'effroi. Hein, à commencer par Mania Mazorette, qui a 2 mots à vous dire.
Tout à fait. J'ai noté que dans la liste de 23 auteurs, il y a une seule autrice. Alors,
oui.
Certes, c'est Marguerite Yourcenar, donc excellent choix. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi il n'y en avait pas plus et pourquoi il n'y a pas Marguerite Duras, enfin.
Alors,
et il y en a d'autres encore.
Ça a été un souci très important pour ce livre. D'ailleurs, Dans le choix même des contributeurs, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit dans ce recueil, de Catherine Vigour, Christine Madame Bovary, Josiane Savigno sur Mémoire d'Adrien, Elena Marianske sur Beaumarchais, Marie Fontana sur Balzac. Donc il y a beaucoup de femmes dans ce recueil. Effectivement, il y en a peu parmi les auteurs. Pourquoi pas Marguerite ? Parce qu'à un moment, il fallait aussi s'arrêter dans le temps. On s'est dit, jusqu'où on va ? Jusqu'à quel moment on entre après dans un débat ? On estime que là, les 23 œuvres qui figurent dans ce recueil sont un peu incontestables. C'est-à-dire que elles écrasent un peu tout. Soit qu'elles aient apporté une révolution littéraire, soit qu'elles... Je dirais dans la... Parce qu'il y a à la fois de la littérature, mais il y a aussi des textes philosophiques. Il y a le contrat social de Rousseau. Le contrat social, il avait sa place que... il y a des œuvres de l'esprit, de manière générale, dans ce recueil. Hein, la fabrique du chef, le contrat social. Si on veut comprendre aujourd'hui le populisme, la crise de la démocratie, c'est encore un livre qu'il faut lire. Mais aussi des grands textes politiques, historiques. Le mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon, les mémoires de guerre. Donc il fallait... Oui, alors...
De Gaulle aussi, en effet.
Pas assez de femmes, c'est vrai. On s'est posé la question.
Ah oui, mais Madame Marguerite de Lafayette...
On l'a écartée juste pour une question de... je dirais
Madame de Sévigné
de postérité aussi.
C'est posé la langue qui... française de Madame
alors
de
qui lit encore après Benoît le critère c'était Benoît qui
et Madame de Lafayette le roman français
Colette enfin on en a
oui,
tous
Colette beaucoup, hein. Mais la question c'était quand même. Qui lit encore est-ce qu'on lit encore beaucoup Madame de Lafayette.
Ben oui, c'est
oui, bien
le,
sûr.
Mais qui lit Madame de Lafayette encore aujourd'hui?
Donc il fallait resserrer un choix et trouver des critères forcément injustes.
Mais qui lit encore le contrat social à part les étudiants?
On l'étudie beaucoup.
À part les étudiants.
On l'étudie beaucoup.
Bah, Madame de Lafayette aussi, on l'étudie beaucoup.
Oui, malgré...
Votre serviteur a étudié Madame de Lafayette.
Malgré ce qu'en disait Nicolas Sarkozy, mais en tout cas...
Oui, il a fait une tentative qui a échoué.
Mais le contrat social, si on l'étudie...
On est honnêtement très loin de la parité, une femme sur 23.
Oui, on aurait voulu idéalement.
Non, je pense que le prochain, il va falloir vous récupérer sérieusement.
Ça s'y prêtait assez mal. Et là, on rame à contre-courant, parce que là, on a des siècles de littérature, et il n'y avait pas la parité à l'époque.
Non, oui, mais c'est vrai que vous avez une responsabilité parce que vous construisez à travers votre choix.
Alors, donnez-moi la liste.
La figure.
Donnez-moi la liste.
D'un génie.
Ah, mais on va vous la faire. Avec Maya, on va vous faire une liste.
Refaites-moi la liste.
Oui, on vous fait une liste. 23 chefs-d'œuvre.
Et on fera le tome 2.
Okay, ça marche.
On vous envoie ça la semaine prochaine. Alors, lui, figure bel et bien sur la liste pour Voyage au bout de la nuit, c'est Céline. Et je voudrais qu'on écoute sa voix. C'est un entretien, un des rares entretiens qu'il a donné à Francine Bloch. C'était chez lui à Meudon pour la phonothèque de la BNF en juin 1959.
J'avais la vocation de médecin et puis dans le cours de la médecine j'avais des ennuis économiques que tout le monde qui est né pauvre doit avoir et alors pour résoudre ces problèmes là je me suis dit rien de mieux que de faire un petit livre. Et mon ambition, c'était d'égaler d'habit à ce moment-là, avec une des livres, n'est-ce pas? Et alors, j'ai dit, je vais en faire un aussi. Puis alors, mais je vais le mettre sous le nom de ma mère, comme ça personne ne saura que c'est moi, et ça ne me gênera pas pour la médecine. Et alors, le livre est sorti, c'est le voyage. Et puis, ça a tellement fait de bruit que ça m'a nuit beaucoup pour la médecine. Alors, ça a tellement nuit pour la médecine que j'étais forcé de travailler dans la littérature. Sans ça, j'y tenais pas du tout.
Moi, je trouve ça incroyable. Comment naissent les chefs-d'œuvre? Bon, je voulais vaguement écrire un truc parce que j'avais besoin d'un peu d'argent. Et pof, je fais Voyage au bout de la nuit.
Oui, c'est Jérôme Dupuis qui signe l'histoire du Voyage au bout de la nuit. Formidable texte, d'ailleurs. Par l'obsession de Céline, dit-il, c'est ce qu'il appelle le terme. Il faut boucler le fin de mois. Donc, il y a un écrivain à l'époque qui le fascine, qui est un peu le Joël Dicker de l'époque. Il dit, mais moi, j'aimerais vendre autant de livres que lui pour pouvoir vivre un peu mieux. Et les parents de Céline voulaient, par exemple, qu'il soit acheteur dans les grands magasins, hein, ce qu'il raconte, ça. On se figure... C'est important de... On réécrit toujours un peu l'histoire à la lumière d'aujourd'hui, mais il faut se figurer quand même le Céline de l'époque, qui est un jeune et beau médecin, qui travaille au dispensaire de Beson, puis de Clichy, en région parisienne, qui a voyagé, il a travaillé à l'Institut d'hygiène de la Société des Nations, donc il revient, il était à New York, là... On va voir que d'ailleurs, le Voyage au bout de la nuit est assez autobiographique. Et c'est un mélange de, effectivement, là où l'artisanat le plus complet, cet homme qui, entre deux médecins, deux patients, tout à l'heure vous le disiez, sur sur des ordonnances quasiment griffonnes.
Sur tout ce qui lui tombe sur la main, il écrit quoi, sur les
avec l'idée de soi-disant boucler ses fins de mois, et puis qui de l'autre va dire à ses éditeurs, j'écris pour rendre les autres illisibles. Donc il y a une espèce d'un mélange de modestie et d'orgueil dans la conception même des chefs-d'œuvre qui est fascinante.
Mais il y a cette idée que c'est vraiment lié au hasard. Et d'ailleurs, ça n'appartient pas à l'auteur.
Ah, est-ce que c'est le hasard? C'est vrai que Céline, ce que raconte Jérôme Dupuis, c'est un homme qui est possédé. C'est comme s'il avait attrapé la fièvre. Il y a quelque chose de très médical dans ce que décrit Jérôme Dupuis. Ça le dépasse. C'est vrai que ouais, c'est ce domaine-là.
Ce que vous racontez aussi, enfin ce que raconte Jérôme Dupuis, c'est que Céline écrivait beaucoup, énormément, et qu'on n'imagine pas dans le style de Céline, dans sa prose, que ça a été énormément réécrit. Il lui a fallu 80 000 pages pour faire Voyage au bout de la nuit, qui tiennent sur finalement 400 pages.
Le premier éditeur qui l'accepte, d'ailleurs, il dit, mais attendez, il y a une condition, vous ne touchez pas au texte. Et c'est vrai que lui, en amont, griffonne, retravaille beaucoup, mais il veut pas que ça se montre, il veut pas que ça se voit. C'est-à-dire que c'est un peu la coquetterie là du génie, c'est pas donner le sentiment qu'il y a eu ce travail artisanal. D'ailleurs, c'est aussi le but de ce livre, La Fabrique du Chef, c'est montrer l'artisanat derrière, l'effort, parce que c'est donné à personne, à part Stendhal qui a écrit Le Rouge et le Noir en quelques semaines, qui est lui plus un cracheur de feu. Les autres, ce sont quand même des besogneux. C'est un effort, c'est le travail qui va primer.
Vous racontez par exemple que Victor Hugo, pour sortir Les Misérables, il lui a fallu 16 ans. Alors certes, il n'a pas travaillé pendant 16 ans sur le livre, mais à partir du moment où il a l'idée et où ça donne la somme que sont Les Misérables, il s'est passé 16 années.
Oui, et Chateaubriand, pareil, c'est deux fois, deux ou trois fois plus longtemps encore. Donc c'est un accouchement difficile. Oui, ils sont possédés par ce... Il y a quand même un signe avant-coureur, c'est que tous vont être possédés par ce texte, l'abandonner, y revenir. Puis c'est même, y a des choses troublantes quand Marguerite Yourcenar, qui au moment où elle quitte l'Europe, au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle quitte la Suisse. Et puis, quelques années après la guerre, elle reçoit un télégramme. On a retrouvé une malle qu'elle a oubliée à Lausanne au moment de partir de l'Europe.
L'histoire est géniale.
Elle retrouve cette malle et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la première page d'un texte, ça commence par « Cher Marc ». On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle marque j'ai bien pu écrire ? Et non, en fait, c'était le début des mémoires d'Adrien.
À quoi ça
Donc ils sont poursuivis par ce... Il n'y a pas de hasard, là, pour le coup. C'est-à-dire que ces chefs-d'œuvre les ont poursuivis. Ces auteurs ne pouvaient pas échapper à leur œuvre.
Alors, La Fontaine, Dumas, Hugo, Thibaut de Saint-Maurice, quel serait vous l'auteur que vous mettriez sur cette liste de chefs-d'œuvre?
Ah, alors, beaucoup, mais dans cette liste, en tout cas, on a parlé de Rousseau tout à l'heure et du contrat social. Donc, effectivement, moi, je l'ai enseigné beaucoup, le contrat social. Et c'est vrai que je suis assez content de le trouver dans la liste parce que c'est pas un texte aussi facile qu'il y paraît. C'est pas très long, ça fait à peu près 80 pages, en fonction des éditions, mais c'est pas très très long. Et c'est un texte sur lequel on peut revenir plusieurs fois. Moi vraiment, c'est ce que je disais, et j'aime bien cette idée aussi qu'un chef-d'œuvre ou un classique, pour dire le mot aussi, c'est un texte auquel on peut revenir plusieurs fois à différents moments de sa vie, qu'on peut relire. Voilà, ça c'est un bon critère aussi de savoir quels sont les livres qu'on peut relire et qui, en les relisant, ne feront pas que réactiver le plaisir qu'on a eu de la première fois, mais nous apprendrons encore autre chose. Et alors, c'est le cas pour Rousseau et son contrat social, puisque ce qu'on découvre des principes de la politique et de la vie démocratique en lisant la première fois, avec un peu plus de maturité, on va se rendre compte qu'il y a plus de difficultés, que par exemple ce fameux concept de volonté générale, qui est un peu une sorte de concept politique largement partagé, en fait c'est pas si évident que ça. Rousseau, il y a quand même des phrases assez géniales du genre la volonté générale veut toujours le bien, mais elle ne le connaît pas toujours. C'est-à-dire, elle veut toujours le bien, mais elle ne sait pas toujours où est-ce qu'il est. Donc et ça, il faut prendre le temps, d'y réfléchir, de le penser, d'y revenir.
Sébastien Le Foll, vous relisez les livres que vous avez déjà pu lire?
D'abord, moi, j'en ai découvert à l'occasion de ce livre. Je dois dire que Le Contrat social, je l'avais étudié, mais pas vraiment lu. Donc, je me suis plongé réellement dedans. Moi, c'est Ce livre, je l'ai aussi, c'est quand même un luxe inouï. De pouvoir réunir un plateau prestigieux des meilleurs spécialistes ou des écrivains que j'admire, Antoine Compagnon nous racontant les essais de Montaigne, et puis leur dire, mais c'est presque une leçon particulière que je leur ai demandé. C'est j'ai demandé à Antoine Compagnon de me raconter les essais de Montaigne, à Jérôme Dupuis de me raconter le voyage au bout de la nuit. Et le contrat social, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'accueil de ces livres. Rousseau, là je parle sous votre contrôle, qui connaissait mieux le sujet que moi, il est très peu commenté, le contrat social, quand il paraît, je crois, en 1762. Il a évidemment beaucoup moins de succès que les Confessions ou l'Émile, mais on va voir à quel point il va infuser dans les classes cultivées et à quel point il va inspirer les révolutionnaires. Alors que quand il sort... Il sort presque dans un assez grand silence.
Oui, c'est une sorte d'échec de librairie, hein,
au départ. Puisqu'il y a du public avec nous au Festival du Livre de Paris, si jamais vous avez envie de prendre la parole, de nous faire part d'un chef-d'œuvre, d'un livre qui vous a marqué, levez la main, n'hésitez pas. Et puis Camille, qui est là dans la salle, aura envie de vous. Oui, madame, allez-y, on vous écoute.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Moi, je voudrais parler du livre de Claude Simon, La Route des Flandres, qui est un livre percutant, qui procure peut-être pas le même plaisir.
Mettez bien le micro dans votre bouche pour qu'on puisse vous entendre. Merci.
Donc c'est un livre que j'ai été obligée de lire quand je voulais passer l'agrégation, parce qu'il était au programme. J'ai buté deux fois, parce que je ne comprenais rien.
Pourtant, il n'y a pas de ponctuation.
Pas de virgule, pas de point, pas de virgule. Ça oscille entre « je » et « il », on ne sait pas qui est le personnage. Et au fond, après, j'ai compris que tout le roman irradiait autour de l'image d'un cheval en décomposition dans la boue. Et ce personnage, entre passé, présent, traumatisé par cette guerre, ça suit la forme d'un trèfle, et ça revient toujours autour de cette image de la mort, de la décomposition. Et c'est inouï. C'est un roman qui ne vous lâche plus, malgré les grandes difficultés.
Mais qu'est-ce qui vous a justement poussé à continuer à le lire? Parce que si ça plaît
pas... Alors j'étais obligée.
Oui, c'est vrai. Il y avait un truc qui s'appelle l'agrégation derrière.
Voilà.
Mais si vous n'aviez pas été obligée, est-ce que vous auriez fait cet effort-là?
Non. J'aurais calé. Là, j'ai été obligée. Et après, ça a été un plaisir inouï. C'est de la poésie. C'est de la pure poésie. Donc après, je l'ai relu plusieurs fois et je le relis encore. Un livre extraordinaire.
Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Mais c'est vrai que ça pose aussi la question de qu'est-ce qui fait le chef-d'œuvre. On a commencé à l'évoquer. Bon, ça peut pas être l'auteur qui dit je fais un chef-d'œuvre, sauf quand on s'appelle Céline, qui a carrément écrit à Gallimard vous avez entre vos mains le futur prix Goncourt de 1932. Faut un sacré orgueil pour le faire, quoi. Bah, donc à part Céline qui ferait ça, personne ne peut dire que ni l'éditeur ni l'auteur, personne ne peut dire que c'est un chef-d'œuvre.
Chez Proust, si, quand même, on sent, il y a, c'est quand même les deux grandes révolutions littéraires du XXe siècle. Proust, Céline, ça, je dirais même les premiers lecteurs, sauf, alors, sur Proust, vous le disiez tout à l'heure, cette phrase fantastique, hein, comment ce type, on peut passer 30 pages à raconter l'histoire d'un type qui se tourne et retourne dans son lit. Donc là, on voit que, mais d'ailleurs.
L'éditeur lui a dit, hein.
Oui.
C'est vraiment ce qu'on peut reprocher.
Rarement, finalement, le jugement de l'époque, à donner des indications sur la postérité de ses œuvres. Parce qu'on a essayé de se garder aussi de deux choses dans la fabrique du chef-d'œuvre. C'est les snobismes de la critique. Alors ça, je veux dire, on parlait de Marguerite Duras tout à l'heure, puisque dans cette émission, on peut aussi confesser ses phobies et ses... Moi, j'ai un problème avec le nouveau roman. Il y a des chefs-d'œuvre dans le nouveau roman, mais moi, je suis passé à côté. Pourtant, un des grands souvenirs d'interview que j'ai eu, c'est avec Alain Robbe-Grillet, qui était le type le plus drôle, le plus...
Et le père du nouveau roman,
oui, le plus étonnant. Mais d'ailleurs, ce qui m'avait un peu gêné, parce qu'il m'avait dit, vous savez, le nouveau roman, tous les gogos de la critique ont bien marché, c'était quand même une grande opération commerciale au début. Non, mais j'ai dit, mais vous êtes cynique ou quoi? Non, je vous assure, au départ, c'est quand même un gros coup marketing, notre nouveau roman. Bon, j'étais un peu... Donc, il y a les snobismes de la critique, il y a aussi... Les préjugés de l'université, ce que Sébastien Lapacq raconte dans le texte sur Gargantua, la Sorbonne n'avait pas reconnu Gargantua et le talent de Rabelais. Donc on a essayé aussi de Les Misérables de Victor Hugo, c'est au départ, comme l'explique très bien Jean-François Kahn, c'est un livre pour Bac plus 5 qui est rejeté par les élites, mais que le peuple va, faire un triomphe. C'est-à-dire, ça va venir par les lecteurs.
Ça
de
échappe,
la base.
Finalement.
Ouais,
ça échappe. On ne sait pas.
Et puis, on a gardé absolument, on a voulu garder Jules Verne dans La Fabrique du chef-d'œuvre. Mais Jules Verne, au 19e siècle, tout le monde le prenait pour un, enfin, c'était un, il faisait des petits fascicules scientifiques, quoi. Il n'était pas pris au sérieux. C'est comme Dumas, qui aujourd'hui est quand même davantage reconnu. Ou même si on devait faire un volume sur la littérature étrangère, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, aujourd'hui, il y a un certain consensus pour dire que c'est une grande œuvre.
Alors on se demande en effet ce qu'est un chef-d'œuvre ce matin dans Grand Bien vous fasse, et puisqu'on a du mal à trouver la réponse, peut-être qu'on peut se tourner vers la philosophie qui a souvent des réponses à tout avec vous. Thibaut de Saint-Maurice, c'est l'heure de la chronique philo.
France Inter, Grand Bien vous fasse.
C'est pas un truc d'un télo la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
De la fabrique des chefs-d'œuvre au génie qui les fabrique, il n'y a qu'un pas, Thibaut, que vous franchissez en vous demandant justement à quoi tient le génie.
Oui, Thomas, alors je ne sais pas si j'ai des réponses, en tout cas, moi j'ai des questions, en tout cas aussi, à apporter. Et apparemment, c'est assez simple, parce que à quoi reconnaît-on un chef-d'œuvre ? Eh bien, c'est qu'il a été créé par un génie, voilà. Et à quoi reconnaît-on un génie ? Eh bien, c'est que les œuvres qu'il crée sont des chefs-d'œuvre.
Ok.
Voilà.
Merci.
La chronique.
Suivant, on va passer le disque.
Bon, sauf qu'en disant ça, en faisant du chef-d'œuvre et du génie des signes l'un de l'autre, on ne dit en fait donc pas grand-chose. Parce qu'on ne dit rien de ce qu'il y a de génial dans le génie. On ne sait pas si le génie, c'est un don naturel ou au contraire, s'il est le résultat d'un long et patient travail d'apprentissage. On n'a pas vraiment pris le temps d'en décrire les effets et d'essayer de penser ce qu'il raconte de notre humanité. C'est d'autant plus important que des génies, eh ben, en fait, on en connaît tous. On a toutes et tous déjà été émerveillés par un artiste, un scientifique, un sportif, un cuisinier et que sais-je d'autre encore, au point de dire d'elle ou de lui que c'était un génie. Mais du coup, question, que dit-on vraiment quand on dit donc de quelqu'un que c'est un génie ? À quoi ça tient ? Est-ce que c'est plutôt une manière de reconnaître un don particulier, une facilité singulière, une inspiration originale ? Ou plutôt un travail sans relâche, une détermination exemplaire, un courage peu commun.
Et est-ce que ça pourrait pas être un peu des deux, un mélange de naturel et de travail ?
Eh ben, c'est toute la difficulté. Et c'est un peu ce que pense justement le génie de la philosophie, Emmanuel Kant, qui écrit quelques paragraphes dans sa critique de la faculté de juger autour de la question du génie. Pour Kant, en effet, le génie de l'artiste, c'est à la fois un don, mais aussi un travail. Sauf que c'est inexplicable. Sauf que l'articulation entre la part de talent et la part de travail n'obéit pas à un cadre ou à des règles que l'on peut expliciter. Un artiste génial produit des œuvres originales parce qu'il est doué d'un talent qui le distingue de tous les autres hommes. Ok, mais encore faut-il qu'il travaille ce talent, qu'il l'exprime, qu'il le fasse éclore. Et pour ça, donc, il faut qu'il y ait bien un travail. Et ce travail, c'est notamment en imitant ou en acceptant l'inspiration des génies qui l'ont précédé ou qui lui sont contemporains. Alors c'est assez beau cette idée, hein, parce que même si elle est un peu paradoxale, ça veut dire qu'un génie ne naît pas tout seul. Quels que soient ses talents, il a besoin des œuvres des autres génies pour éclore. À quoi tient donc le génie ? À quoi le reconnaît-on ? Eh bien, pour Kant, il est original, on l'a compris, tout en devenant immédiatement classique et sans qu'on puisse expliquer le passage de l'un à l'autre. C'est aussi un peu agaçant, cette absence de mode d'emploi clair, et en même temps, c'est peut-être bien ce qui permet de rendre compte de cette petite magie propre au génie. Le génie nous agace parce qu'on ne comprend pas comment il fait, et d'ailleurs lui-même, il est parfois bien embarrassé, le génie, pour nous expliquer ce qu'il fait. Pourtant, à travers ses œuvres, nous voyons bien qu'il est possible d'exprimer une singularité personnelle, une sensibilité, une vision du monde. Et en retour, cette sensibilité nous aide à mieux apprivoiser notre propre singularité. C'est un peu comme si on chaussait des lunettes qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on voit pourtant mieux qui l'on est à travers donc ces lunettes, à travers le génie qui est à l'œuvre. Il y avait en un sens que Rimbaud pour écrire du Rimbaud, ou il n'y avait que Barbara pour écrire et chanter du Barbara. Et pourtant, ce qui est génial, c'est que leurs mots me permettent enfin de me raconter. C'est pour ça que d'une certaine manière, les chefs-d'œuvre ou les classiques n'appartiennent à personne, mais bien à tout le monde.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. Votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter, musique. Et puis juste après, Maya Mazorette se demandera pourquoi il est si difficile d'écrire une scène de sexe.
Et oui.
<t'-> sulungai ni warale ne mandringamba Alene ma bringamba Mokada itera fola e mokada imiria ai kokan de foila wasolo irite ko ai kokan de foila kamere ngon foko ai kokan de foila nindo mele la bate anna ndola kajamana mara bringamba
La compositrice et chanteuse malienne Oumou Sangaré, ce titre Wassaloudan, et évidemment toute la programmation musicale est sur le site de l'émission. Et merci aux équipes de Radio France ici au Festival du Livre de Paris, Patrick Beaulieu, Olivia Branger, Thomas Robin et Alain Fauché.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux pas obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Oui, car c'est l'heure de la chronique sexo de Maya Mazorette. Et pour cette chronique, Maya, on reste dans la thématique du Salon du Livre. Il se trouve que la sexualité a parfois du mal à s'accorder avec la littérature.
Beaucoup de mal même, au point qu'en Angleterre, jusqu'en l'an de grâce 2018, il a existé un prix de la pire scène de sexe écrite dans un roman décerné par la prestigieuse Literary Review. Chaque année, on y découvrait des extraits tous plus intrigants les uns que les autres, uniquement tirés de la grande littérature sérieuse et respectable. Démonstration avec un extrait tiré d'un roman de 2017 de Christopher Bolland. Elle recouvre ses seins derrière son maillot de bain. La peau de ses épaules est inégalement bronzée, comme des traces de calcaire dans une baignoire. Son visage et son vagin se disputent mon attention. Donc, je jette un œil au jeu de billard de mon pénis et de mes testicules. Eh bien voilà, je crois que la
Merci.
Température vient de monter de quelques degrés au salon.
Alors, est-ce qu'en France, on a des compétiteurs?
Alors, nous, on n'a pas de prix littéraire dédié au mauvais sexe, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de potentiel. Certains auteurs coupables de crimes contre la libido sont probablement présents ici aujourd'hui. Je ne voudrais pas casser l'ambiance. Non, je vais plutôt rappeler qu'en cette période d'élection, nos amis les politiques fournissent un effort soutenu à la littérature érotique made in France. Je pense à Bruno Le Maire, à Emmanuel Macron, qui aurait écrit un livre sulfureux quand il était jeune homme, mais je pense surtout à Valérie Giscard d'Estaing dans son roman « La princesse et le président » paru en 2009. Je vous mets un autre petit extrait. « Ah, prends-moi, vilaine bête, prends-moi fort !» j'appelle la princesse de sa voix flûtée, tandis que le président donnait de violents coups de rein en rugissant comme un lion. L'étreinte fut brève et violente. Quand Jacques-Henri, encore en érection, roula sur le côté, ce fut pour s'apercevoir avec effarement que toute la scène avait eu lieu sous le regard d'une caméra de télésurveillance installée dans l'angle du salon. C'est vrai que c'est ballot. Un petit peu de parité, je voudrais mettre un extrait écrit par une femme. Mes lèvres aspirent les siennes. Nous nous embrassons si goulûment que j'ai la sensation de boire sa salive. Nous fusionnons nos bouches. L'autrice de cette fusion buccale, vous la connaissez, elle s'appelle Marie Menelli, alias Marlène Schiappa, dans son roman « Sexe, mensonge et banlieue chaude ». Mais attendez, les politiques ne font pas qu'écrire des livres hot comme des baraques à frites. Ils peuvent aussi être des personnages de romans érotiques. Je vous donne encore un extrait. Emmanuel Macron pousse un long feulement alors que je l'absorbe d'un coup dans ma bouche, ignorant les préliminaires. J'ai trop envie, je le suce avec violence et raflant sa chair fine de mes ongles et de mes dents. Ses soupirs se changent en cris. Ça, c'était une fanfiction signée Pilgrim67. Vous pouvez la retrouver sur Internet au milieu de dizaines d'autres mettant en scène Gabriel Attal, Benjamin Griveaux ou Justin Trudeau. Tout ça pour dire qu'en littérature érotique, on a beaucoup de choix, mais le résultat est souvent plus rigolo qu'excitant.
Mais alors, justement, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écrire des scènes érotiques ?
Oui, là, j'ai l'air de me moquer, mais je suis pas loin de penser que la littérature érotique est un peu vouée à l'échec, comme un accident de voiture constamment en train de se produire sous nos yeux. Et il y a une raison liée au vocabulaire. Les mots du sexe, ils sont soit cliniques, soit infantilisants, soit grossiers. Difficile de cuisiner un plat de bon goût quand on n'a pas les bons ingrédients. Faute de vocabulaire vraiment excitant, il ne reste plus pour être élégant qu'à enfiler des métaphores. Et là, fleurs, fruits, architecture, animaux, tout y passe. Et pourtant, rien ne passe. En sexe, on n'a pas les mots, ou rarement. Peut-être que la jouissance est indicible. Peut-être que le sexe nous excite justement parce qu'il échappe au verbe. Et pourtant, certains auteurs, certaines autrices s'en sortent avec talent. Je pense là au prix de la nouvelle érotique décernée par les éditions Le Diable Vauvert. Cette année, c'est une femme qui l'a gagnée. Enfin, cette année, en 2021. Elle s'appelle Perle Valens. Son texte est en ligne. Et en ce moment, ça fait du bien de lire autre chose que les programmes politiques.
Bien, merci, Maya. Votre chronique est évidemment à retrouver sur le site de l'émission. Christina, vous vouliez ajouter un petit mot, nous parler d'un auteur.
Oui, un auteur, un très grand auteur qui vient de disparaître, très grand auteur de littérature érotique, Jacques Abeille, alias Léo Barthes. C'est de la pure littérature, chef-d'œuvre à lire absolument. Voilà, mais puis, c'est un des rares.
Merci Christina. Et puis peut-être un dernier mot, Sébastien Le Foll, puisque nous sommes là au Festival du Livre de Paris. Vous rappelez dans votre préface qu'il y a derrière chaque livre des hommes et des femmes qui travaillent. En creux, c'est aussi finalement l'histoire du métier de l'édition que vous faites avec cette fabrique des chefs-d'œuvre.
Ah oui, il n'y aurait pas peut-être la plupart de ces chefs-d'œuvre sont derrière un éditeur. On pense notamment à la relation passionnante entre Jules Verne et son éditeur, mais en écoutant la chronique de Maya Mazorelle, je pensais qu'il faudrait maintenant, on va aller voir mon éditeur pour lui proposer une fabrique du chef-d'œuvre érotique qui sera paritaire.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous dans Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur franceinter.fr et sur la plupart des plateformes de podcast. Lundi, Ali Répi, le maître des lieux, sera de retour avec une émission consacrée au miel.